Alors, merci pour votre accueil ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa bénédiction repose sur vous, qu'il ouvre les yeux de notre cœur, comme ça a déjà été prié. Alors, je ne suis pas venue toute seule, bien sûr, je suis venue avec Ellie et Samuel, mais avec eux. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose? Comment ils s'appellent?
Ibona.
Ouais, mais qu'elles ont un nom?
Ah, il y a une madame et un monsieur.
Une madame et un monsieur, oui, mais encore. Non, ça vous dit rien?
Non.
Madame Joyeuse,
ça? Ah, il y a quelque chose comme ça, mais...
Et monsieur Grognon?
Et monsieur Grognon. Intéressant, il y a de ça. En fait, il s'agit de madame oui et de monsieur non. Mais dès l'enfance, on met dans la tête de nos chers bambins l'idée que madame a plutôt tendance à dire oui et que monsieur a tendance à dire non. Alors, je ne sais pas si vous trouvez random, mesdames et messieurs. En tout cas, pas moi. Et puis ce dessin, comme vous l'avez finalement souligné, ça nous laisse entendre que c'est bien de dire oui, ça fait plaisir, vous avez vu le grand sourire de madame. Et puis que c'est mal ou triste de dire non. Vous voyez l'amour de monsieur, monsieur qui pourrait être grognon. Ben, Jésus, lui, il ne porte pas de jugement sur le oui et le non, mais il nous dit dans le serment sur la montagne que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est d'ailleurs un commandement qui est cher à nos ancêtres anabaptistes. Hein. Mais Jésus connaît aussi la réalité de notre humanité. Et dans la parabole que nous allons lire maintenant, il raconte un dialogue entre un père et ses enfants, où le oui et le non sont bousculés. Alors je lis dans Matthieu, chapitre 21, les versets 28 à 32. Que pensez-vous? Un homme avait deux fils. Bon, d'abord, il s'agit de deux enfants ici. Hein. Littéralement, c'est deux enfants. Ça donne un sens beaucoup plus général, donc sentez-vous pleinement intégrés, mesdames. Alors, un homme avait deux enfants. Il s'adressa au premier et dit « Enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit « Bien sûr, maître, mais il n'y alla pas. » « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» dit Jésus. Ils répondirent le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le dis. Les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu avec vous, à vous, par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. » Si Jésus nous avait interrogés, nous aurions certainement fait la même réponse que ses auditeurs de l'époque. Celui qui avait fait la volonté de son père, c'est le premier, qui a commencé par dire non, et puis qui a changé d'avis. Mais remarquez que Jésus ne nous donne pas de réponse à cette question, et c'est pas là-dessus que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. J'ai plutôt à cœur d'axer mon message sur la relation vécue entre ces enfants et leur père. Et ça nous concerne tous, car les réponses que nous donnons sont bien souvent conditionnées par les réponses que nous vivons. Alors, je ne sais pas si tu cherches encore des titres aux prédications, Christian.
Toujours.
Toujours. Ben, on pourrait donner celui-là. Hein. Les réponses que nous donnons sont souvent conditionnées ou influencées par les relations que nous vivons. Et c'est là-dessus que j'aimerais mettre le focus, et pas tant sur les réponses elles-mêmes. Et pour nous aussi, les réponses que nous donnons sont influencées, voire conditionnées par les relations que nous vivons, que ce soit avec Dieu, mais aussi avec ceux qui nous entourent, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, l'Église, au niveau du travail. Et pour bien comprendre cette parabole, il est important de la lire dans le contexte et de lire les versets qui précèdent. Jésus se rend au temple, et il enseigne, et voilà que les chefs religieux, les grands prêtres, les anciens du peuple lui demandent « Mais De quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? Jésus répond, eh bien, moi aussi je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, eh bien, je vous dirai de quelle autorité je fais cela. Jésus demande, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des humains? Alors eux répondaient et raisonnaient, cherchant la question appropriée à répondre. En se disant, mais si nous répondons du ciel, il nous dira, mais alors pourquoi ne vous l'avez pas cru? Et si nous répondons des humains, nous pouvons craindre la foule, car tous tiennent Jean pour prophète. Ils répondirent donc à Jésus, eh bien nous ne savons pas. Jésus leur dit à son tour, eh bien moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela. Remarquons la différence d'attitude entre Jésus et les autorités religieuses. Jésus est libre, il ne se laisse pas impressionner par les hommes, il prend la liberté de leur retourner la question, d'ailleurs ce qu'il fait souvent Jésus, en leur en posant une autre question, et il prend la liberté de ne pas leur répondre. Je ne vous dirai pas, il dit. Si vous me répondez, je vous dirai de quelle autorité je fais ces choses, mais sinon je ne vous réponds pas. À aucun moment, Jésus n'éprouve le besoin de se justifier. Son attitude est radicalement opposée à celle des autorités religieuses qui dialoguent, qui discutent entre eux sur la réponse à apporter en pesant le pour et le contre. Les pharisiens et les anciens, eux, sont empêchés de répondre. C'est comme s'ils n'étaient pas libres. Et ils se posent des questions. Ils ont comme les pieds et les mains liés. Ils ont la phobie de la foule. Ils ont peur de sa réaction. Ce qui les empêche d'agir aussi simplement et librement que Jésus. Ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent, par crainte de perdre leur statut, leur pouvoir, leur influence, mais peut-être même aussi leur besoin de la foule pour combler un vide existentiel. Et cela les amène à apporter une réponse dictée par la peur. Nous ne savons pas, disent-ils. C'est un peu une réponse caméléon, on peut faire aussi ce genre de réponse, nous. Ils auraient pu dire, nous ne voulons pas te répondre, ou même, nous ne te dirons pas, comme l'a fait Jésus. Une réponse possible, ça aurait été aussi le silence, c'est aussi une réponse. Et nous sommes, nous aussi, parfois, comme des caméléons qui cherchons à adapter nos réponses en fonction de celui que nous avons en face de nous. Jésus, lui, n'a rien à perdre. Il est libre. Et ce dialogue de Jésus avec les autorités religieuses, sur lequel on pourrait s'arrêter plus longtemps, pose la question suivante. Est-ce qu'on est libre? Qu'est-ce qui nous paralyse ou nous influence dans les réponses que nous apportons? Et cette question, elle traverse la parabole de Jésus. Jésus met en évidence deux attitudes. Celle de dire toujours, par exemple toujours oui, et de ne pas faire ou ne pas faire correctement, car on n'y met pas tout son cœur, ou celle de commencer par râler, et puis finalement de faire quand même. Le premier enfant, il est dans une juste relation avec son père, et il lui répond spontanément, je ne veux pas. C'est une parole vraie, sincère, il se sent libre de dire non. Ce qui caractérise en fait le premier enfant, c'est sa capacité au changement. Il sait qu'il est en relation avec son père, il sait que son père l'appelle à travailler, mais qu'il le laisse libre de son choix. Il sait qu'il peut ne pas rester enfermé dans la première réponse, il peut en sortir, il est libre. Alors, le récit nous dit « plus tard », et ce petit adverbe de temps est important, « plus tard, il fut pris de remords ». Et le verbe qui est employé ici, ce n'est pas le verbe qui a donné repentance, mais c'est le verbe, un autre verbe qui signifie regretter, changer d'avis, mais dans le sens de s'inquiéter envers quelqu'un, ou pour quelqu'un. Il semble que l'enfant a pris le temps de la réflexion pour considérer les choses, et que ce recul, en fait, lui a fait considérer les intérêts de son père. Il semble avoir compris le besoin de son père l'envoyer travailler dans la ville. Alors, plus tard, il change d'avis et il y va. Il sait que son père l'aime, qu'il accepte ses craintes, ses doutes, sa faiblesse, et ça lui permet de bouger, de changer d'avis et de participer à la mission. La réponse du deuxième enfant, ce n'est pas de ce registre. Littéralement, c'est « ego curier ». Autrement dit, « moi maître ». Et non pas comme on le traduit un peu vite, « bien sûr maître » ou comme en français courant, « oui père ». On n'est pas du tout là-dedans. Et c'est vraiment dommage de faire ici un écart de traduction avec le grec et d'ôter la richesse du texte. Cet enfant appelle son père maître ou seigneur. Il parle à son père comme on parle à, comme un esclave parle à son maître. Je ne sais pas si tu as le français courant, mais le français courant c'est oui père. Hein. En tous les cas, c'est comme si la demande. Tu veux racheter? Non. Je te vois dans l'interruption. Vous avez le droit de m'interrompre. Hein. Comme si la demande de son père était une mise au travail obligatoire, contraignante, à laquelle on ne peut pas dire non. C'est comme si on craignait une punition. Il a cru que son père le prenait pour un esclave en lui demandant d'aller travailler pour lui. Alors il a dit oui, mais son oui voulait dire non, comme on se revive devant un tyran. D'ailleurs, ce qui est traduit par oui, ou bien sûr dans nos Bibles, ce n'est pas le terme « oui » en grec, hein, mais le mot « ego ». Et cela signifie une relation faussée à lui-même et à son maître. Hein. « Ego hein, », lorsqu'on est égocentré sur tout soi, eh bien, on est soi-même au centre, et puis il n'y a pas de place pour l'autre. Donc le deuxième enfant, il est dans une relation faussée à celui qu'il considère comme un tyran. Alors il dit oui, mais sans espace de temps, sans ce plus tard, sans la réflexion. Et comme cet enfant, et comme les chefs religieux du temps de Jésus, certains d'entre nous sont habitués à dire oui. Oui au Dieu qu'ils craignent. Et sont donc peut-être même, peut-être esclavage, c'est peut-être un gros mot, mais pas vraiment une relation à Dieu comme Père, si bien qu'il n'y a pas de place pour la réflexion, le discernement, la possibilité de changer d'avis, de renoncer et d'avancer. Ils ne souhaitent pas plus bouger dans leur vie sur eux-mêmes et sur les autres. Donc cette parabole, c'est une réponse à des chefs religieux qui tournent autour de leur ego. Jésus leur fait comprendre qu'ils sont comme le deuxième enfant et qu'au final, ils sont hypocrites. Et pour enfoncer le clou, Jésus ajoute, en vérité, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. C'est une phrase provocante, surtout pour les hommes de cette époque. Hein. Au temps de Jésus, les prostituées et les collecteurs d'impôts sont au plus bas de l'échelle sociale. Les prostituées parce qu'elles ont des mœurs choquantes, hein, qu'elles dérangent dans ce qu'il y a de plus fragile, la sexualité. Et les collecteurs d'impôts parce qu'ils sont au service des Romains, qu'ils récoltent l'impôt pour les occupants, qu'ils en profitent pour s'en mettre plein les poches. Et il n'empêche que les collecteurs d'impôts sont venus vers Jean-Baptiste pour lui demander le baptême, lui demander mais quoi faire. Et le lien entre les deux passages tourne autour du baptême de Jean, qui était un baptême de repentance. Et Jésus souligne l'importance d'un changement d'orientation. Il dit, si les prostituées et les collecteurs d'impôts sont les personnes les plus éloignées de Dieu et les plus marginalisées, ce sont pourtant elles qui viennent écouter Jésus et sont touchées par la parole qui les libère. Les évangiles nous en rendent témoignage. On a l'histoire de Zachée, hein, qui va changer de comportement et donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et Jésus va dire de ses collecteurs d'impôts, ces prostituées, ils vous précèdent dans le royaume de Dieu. Non à cause de leur mauvaise vie, mais parce qu'elles sont mises en mouvement par la parole de Jésus. Au fond d'elles-mêmes, elles ont un manque qui leur permet de bouger, d'entendre la voix de Dieu comme celle d'un Père aimant, qui permet de dépasser tous les noms qu'on peut lui opposer. Elles vous précèdent auprès de Dieu, dit Jésus, car elles ont cru, alors que vous, vous n'avez pas cru et vous n'avez pas eu de remords. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert cette nuit d'ailleurs, c'est le même verbe utilisé comme pour le premier enfant qui exprime un regret avec l'adverbe « plus tard » qui est souvent ici traduit par « la suite ». C'est Jésus, c'est comme s'il valorisait le changement du premier enfant qui a dit oui et qui a changé d'avis, qui a pris ce temps, cet espace de plus tard pour changer d'avis et finalement pour accéder à ce que Dieu voulait. Et dans cette parabole, Jésus présente Dieu comme Père, et la relation de Père à Fils, si elle est vécue pleinement, nous laisse cette possibilité de dire non. Il y a la place devant Dieu pour nos questions, pour passer d'un non libre à la découverte que le retour est possible et qu'on peut changer d'avis. Et au-delà de la relation à Dieu, quand on n'a pas vraiment découvert Dieu comme un père, alors il est difficile d'aller vers des frères et sœurs dans la foi et d'oser leur dire non. Et combien souvent on dit oui alors qu'on n'a pas forcément envie. Il est parfois difficile d'avoir la simplicité, la liberté dans les réponses que nous donnons, car elles sont bien souvent motivées par la peur, par le désir de déplaire à l'autre. Mais nous pouvons changer notre regard. Et c'est bien autour de la capacité du changement que tourne ce texte. Changement d'avis sur Dieu, ou de regard sur lui, ne plus le voir simplement comme un maître, mais comme un père qui nous aime, qui aime ses enfants. Vivre dans une relation saine à Dieu entraîne aussi d'autres changements, changement d'avis sur soi-même, non en fuyant sa place dans le monde, mais en assumant pleinement sa liberté, que ce soit dans le monde, dans l'Église. Changement d'avis aussi sur le frère ou la sœur que j'ai peut-être enfermé dans un jugement. Peut-être que moi-même, je me suis enfermée dans un type de fonctionnement. Par exemple, attendre que l'autre râle pour que je me mette à faire ce qu'on me demande de faire. Et peut-être que j'ai été marquée par mon propre père terrestre et que je faisais les choses uniquement de manière servile, notamment quand il râlait, puis que je reporte ce fonctionnement dans mon couple. En fait, on peut avoir toutes sortes de fonctionnements. Et un changement d'avis se traduit souvent par un changement de vie. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à un changement de relation en lien avec la foi. La foi, c'est la relation à Dieu qui s'ouvre à une relation renouvelée à soi-même, aux autres, ce qui permet d'avancer. Et le remords ici, ce n'est pas tellement la culpabilité qui enferme, mais la capacité à changer d'orientation et à prendre un nouveau départ. Dans cette parabole, Jésus nous dit que Dieu est pour nous comme un père et non pas comme un maître. Son appel à travailler avec lui, pour lui, n'est pas un ordre, mais c'est une invitation qui nous laisse libres et nous rend responsables. Il nous dit que nous pouvons encore changer. Car ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre première réaction à son appel, ce n'est pas d'avoir dit non un jour. Ce qui compte pour Dieu, c'est notre capacité à nous ouvrir et à changer. C'est la simplicité de cœur qui permet de ne pas se sentir lié, enfermé, emprisonné dans nos propres refus. Moi je sais, parce que j'ai toujours tendance à d'abord dire non avant de dire oui. Mais dire non, c'est jamais définitif. Il peut sembler humiliant parfois de se mettre à faire ce qu'on avait dit haut et fort qu'on ne ferait jamais. Accepter ce que l'on refusait, c'est parfois difficile. Hein? La peur du jugement des autres, du regard des autres, ça peut devenir aussi paralysant. Et pourtant, Dieu nous dit de ne pas craindre de changer. Dieu ne demande pas une justification ou une explication au changement de vie. Il ne demande pas pourquoi on avait dit non un jour et puis qu'on se met à dire oui. Mais il accueille avec une grande joie ceux qui se tournent vers lui. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est que nous entrions dans une relation d'amour authentique avec lui, non de crainte, une relation vivante où aucun non n'est jamais définitif et où le pardon est toujours offert, où l'amour peut toujours ressusciter, où le oui de Dieu sur nos vies peut toujours être accueilli, alors que l'esprit de vérité nous vivifie pour que nous apportions des réponses authentiques et qui aillent de plus en plus dans le sens de ce commandement de Jésus, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Amen. Seigneur, regarde et bénisse.